Plus de 20 millions de liseuses électroniques ont été vendues en 2011. Ce chiffre pourrait encore augmenter avec l'arrivée des liseuses de nouvelle génération cet automne. Et en pleine période de vacances, la question se pose au moment de faire la valise. Prendre des livres en papier ou une liseuse de livres électroniques. Didier Bonvin, vous avez testé ces liseuses. Est-ce vraiment la panacée?
Alors le débat papier contre numérique reste encore un vaste débat, comme on va le voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, glisser une petite liseuse dans sa poche quand on part en vacances, c'est nettement moins encombrant qu'une lourde pile de livres.
Oui, alors ça c'est le point en faveur des liseuses. Mais est-ce que c'est simple d'acheter un livre numérique ou est-ce qu'il faut vraiment être un geek accompli?
Alors c'est pas vraiment plus compliqué que de s'acheter de la musique en MP3. Il suffit de créer un compte avec une carte de crédit et de télécharger les œuvres sur le catalogue d'un éditeur ou d'un distributeur.
Mais le nombre de livres que je pourrais emmener sera limité évidemment à la mémoire de ma liseuse.
Oui, mais les liseuses pourront contenir jusqu'à 3000 œuvres selon la mémoire et la taille de l'œuvre, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer en vacances.
Oui, côté offre, il y a beaucoup de livres numériques en français.
Alors actuellement, c'est en augmentation. On arrive à environ 70 000 livres en français, mais c'est assez pauvre comparé aux 3 millions de livres qu'on trouve sur le catalogue du géant américain Amazon.
Et côté autonomie de la batterie, est-ce qu'il faudra penser à recharger chaque jour la liseuse?
Alors à moins d'avoir de très longues vacances, ce n'est pas vraiment un problème, puisque la durée des batteries des dernières liseuses peut atteindre 2 mois. Donc il y a de la marge.
Ah oui, il y a de la marge. Il y a de quoi lire, on va dire. Didier, ouais. Bon, maintenant, on lit aussi volontiers sur smartphone ou sur tablette. Apple a même son bookstore, sa librairie en ligne. Quel intérêt finalement d'avoir une liseuse?
Alors pour l'instant, le confort de lecture est nettement meilleur sur une liseuse. Si vous lisez sur votre tablette en plein soleil, vous risquez de ne pas voir grand-chose à part votre reflet, ce qui peut être sympathique. Mais sur une liseuse, c'est différent. Je vous en ai amené une ici. Comme vous le voyez, ça donne presque l'impression de lire sur du papier. C'est dû à l'affichage qui se fait en e-ink, une sorte d'encre électronique.
Et le modèle le plus en vogue, c'est celui que je tiens dans la main, c'est un Kindle, Kindle du géant américain Amazon, mais il y en a d'autres.
C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce Kindle, c'est un peu normal puisqu'il détient 70% du marché, mais on peut trouver d'autres modèles. Payot vend sa liseuse en partenariat avec Bookin. La Fnac a choisi sa liseuse Kobo d'un constructeur canadien qui détient 11% du marché mondial. Et le japonais Sony se contente de miettes avec seulement 5% du marché mondial pour son e-reader.
Est-ce qu'il y a de grandes différences d'un modèle à l'autre?
Alors les différences sont assez minimes. Les liseuses ont toutes à peu près la même taille d'écran, 6 pouces et le même poids plume de 150 grammes environ. Mais la différence réside dans le catalogue. Si vous décidez d'acheter une liseuse de la marque Kobo par exemple, vous ne pourrez lire et acheter que des bouquins du catalogue Kobo, à cause notamment d'un système de verrous numériques.
Oui, on en parlait d'ailleurs il y a 2 semaines de ces verrous numériques, les DRM comme on les appelle, qui empêchent de passer du contenu d'un modèle à un autre, enfin qui empêchent en tout cas, qui limitent cette compatibilité. C'est donc le cas sur les livres numériques.
La majorité des livres numériques ont ce verrou et on peut se poser la question si les fameux DRM ne sont pas aussi un frein au développement du livre numérique. Marie-Pierre Sangouard, directrice de Kindle France.
Les freins aujourd'hui au développement ne sont pas du tout des freins de DRM. Aujourd'hui, par exemple, Amazon, certes, a des DRM parce que les éditeurs le souhaitent. C'est aussi une protection quand même du droit d'auteur. Les vrais freins aujourd'hui, c'est que il y a 2 choses. Il y a la sélection, c'est-à-dire le catalogue disponible est encore très faible. Même si aujourd'hui, le fait qu'il y ait des grosses nouveautés, quasi toutes les grosses nouveautés soient disponibles, c'est très bien. Et le deuxième point, c'est la tarification du livre numérique, en tous les cas en France, où on a quand même des prix qui sont relativement élevés, même si depuis 6 mois, on voit que les éditeurs font des efforts. Mais quand vous voyez des livres numériques dont le prix est égal ou supérieur au prix du poche, ça fait tiquer un certain nombre, effectivement, d'acheteurs de livres numériques, à juste titre.
Marie-Pierre Sangouard, quel est le pourcentage de livres numériques vendus par rapport aux livres papier?
Le pourcentage de livres vendus en électronique par rapport au papier, alors je vais pouvoir vous donner simplement des chiffres au niveau du marché français. On est autour de à peu près 1% de livres numériques. Alors je parle en chiffre d'affaires vendus par rapport aux livres papier, ce qui est effectivement très faible quand on voit ce qui existe aux États-Unis, où le marché est autour de 14-15% et peut même pour certains éditeurs se monter à 20% de leurs chiffres globaux de vente, notamment dans tout ce qui est titres grand public, fiction, documents, biographies, etc.
Est-ce que le marché suisse est comparable? On a à peu près les mêmes chiffres, 1% de livres numériques vendus par rapport aux livres papier.
Je crois que vous êtes effectivement dans la plaque de l'édition numérique en langue française. Vous êtes effectivement la Suisse semble suivre les pas de l'édition de l'industrie du livre en France. C'est certain. On espère effectivement que ça va se développer. Et je crois vraiment que les 2 points clés, c'est l'accroissement du catalogue et du nombre de titres disponibles et deuxièmement, un pricing qui soit plus pertinent. En l'absence de coûts de transport physique, en l'absence de coûts d'entreposage monstrueux, parce que les gens ne sont pas non plus totalement idiots, il faut qu'il y ait une décote substantielle entre le prix papier et le prix numérique, y compris quand le bouquin passe en poche.
Pascal Vandenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints quelques instants dans On en parle. Vous êtes directeur des librairies Payot. Vous confirmez ce que nous dit Marie-Pierre Sangouard, donc directrice de Kindle France, qu'on vient d'entendre. C'est la faute aux éditeurs si les prix des livres électroniques sont si élevés?
Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Je crois que, évidemment, elle plaide pour Amazon. Amazon a tué le marché aux États-Unis en pratiquant une politique de prix d'hyper-discount qui lui a permis de devenir monopolistique, ce qui tue la concurrence en réalité, et au détriment en premier des auteurs et des éditeurs. Quand vous vendez toute la production à 9$ en laissant 30% pour l'auteur et l'éditeur, ce qui est une aumône derrière, mais quand vous posséder 60 ou 80% de parts de marché, comment l'éditeur peut résister à ça? Et justement, les éditeurs français sont beaucoup plus attentifs à d'abord à ce qu'il y ait une vraie concurrence et que les vrais libraires, puissent entrer dans le marché du numérique sans qu'il y ait cette espèce de course permanente au prix le plus bas qui, en réalité, tue le marché, contrairement à une approche, primaire de consommateur.
Mais un prix d'un livre numérique plus cher que le livre papier, c'est quand même aberrant, puisque là, justement, il y a quand même moins...
Oui, c'est en train de changer. En fait, et par exemple, Gallimard maintenant, il crée en fait une version qui s'appelle le poche numérique, c'est-à-dire que vous avez le numérique qui sort quand le grand format sort à la nouveauté, avec un prix qui est 20-30% inférieur pour le numérique, et puis quand la version poche en folio sort, ils refont une édition numérique éventuellement modifiée s'il y a eu des modifications dans le texte, et ils le passent à un prix poche numérique, c'est-à-dire que le prix se recalcule par rapport au prix du poche. Alors ça, c'est nouveau, ça vient d'arriver, ça va commencer à se mettre en place, ce qui fait qu'on aura plus cet écart entre le papier poche qui, effectivement, aujourd'hui est pas beaucoup plus cher ou parfois même moins cher que la version numérique.
Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis l'année passée avec Borders qui a fermé ses 399 succursales, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur en tant que directeur de Payot? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver en Suisse?
Non, je crois pas, et ça concerne pas vraiment le monde francophone. Borders a commis un certain nombre d'erreurs stratégiques. On se rend compte qu'ils ont un problème le jour où ils ferment. En réalité, si on regarde un peu plus sur la durée, Borders, dans un marché qui est les États-Unis où la vente en ligne a tout de suite pris des proportions très importantes, ne serait-ce que parce que la proximité des librairies est problématique. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes parfois à 300, 400, 500 kilomètres de la plus proche librairie, donc ça favorise effectivement la vente en ligne. Ils s'y sont mis très très tard. Pour un marché qui était très très important, ils sont arrivés, un peu comme les libraires indépendants français, ils sont arrivés alors que la messe était déjà dite. Et puis ils ont eu une croissance de création de points de vente beaucoup trop rapide, ce qui fait qu'à un moment donné, ils avaient un problème de financement. Et puis aussi, aux États-Unis, dans ces grandes chaînes de librairies, on est totalement déshumanisé, on n'a pas de proximité avec le lecteur client. Donc en fait, pour le client, venir dans le magasin ou acheter sur Internet, c'est pas plus humain d'aller dans une grande chaîne de librairies de ce type que autant rester chez soi, quoi.
Mais vous ne craignez pas, Pascal Vandenberg, le même phénomène qui s'est passé avec le disque, c'est-à-dire que quand le phénomène aura pris et puis que tout le monde téléchargera ses livres en ligne, là, ce sera la mort de la librairie, papier.
Non, d'abord, la librairie existe aussi avec le numérique aujourd'hui. Pour nous, c'est un format complémentaire. On voit bien que les acheteurs aujourd'hui de liseuses, principalement, utilisent ça pour des questions de mobilité, effectivement. Comme vous le disiez, on peut emmener avec soi une bonne partie de sa bibliothèque sans avoir l'angoisse du sac plein de livres ou de manquer de lecture. Mais en même temps, on n'est pas du tout aux États-Unis dans le rapport aux livres ni dans il y a beaucoup de freins en fait en réalité, contrairement à ce que disait la dame d'Amazon tout à l'heure. Évidemment, elle se focalise sur le prix. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Le DRM est un frein à la diffusion de la culture. Si je vous invite à dîner chez moi, je vais vous parler d'un auteur que vous connaissez pas, je vais prendre un livre dans ma bibliothèque, je vais vous le prêter. Et puis, si vous aimez le livre, vous allez acheter les autres œuvres. Le livre, c'est toujours diffusé de cette manière-là. Aujourd'hui, le DRM m'empêche de faire ça. Et Amazon, en plus, c'est un système fermé. C'est-à-dire que quand vous achetez le Kindle, vous ne pouvez acheter des livres que sur Amazon. Nous sommes pour des systèmes ouverts qui ne sont pas une entrave à la liberté. Les liseuses que vous achetez chez Payot, vous pouvez acheter vos livres numériques ailleurs. Inversement, vous pouvez acheter une liseuse Sony ailleurs et acheter sur... On est pour l'ouverture du marché, contrairement à ces grands acteurs internationaux qui veulent capter un maximum des choses pour créer du monopole. Moi, je trouve que c'est absurde. Mais en réalité, le livre numérique est là en complément. Et sur le marché francophone, il n'y a aucune perspective de substitution, si vous voulez, du numérique par rapport au papier.
Donc selon vous, c'est ça l'obstacle, c'est le verrou numérique, c'est cette impossibilité, ces entraves.
C'est une des entraves, il y en a d'autres, hein. Le rapport au livre n'est pas du tout le même dans le monde francophone. Et puis par rapport à la musique, pour revenir à cette question-là, la musique est d'abord un bien de consommation, de divertissement. Mm-hmm. Ça se consomme beaucoup plus. Le livre a d'autres fonctions de connaissance, de savoir, de formation,
et
d'éducation.
L'attachement au papier quand même.
Et puis il y a l'attachement au papier. Avec le numérique, vous perdez tout ce que j'appelle le périlivre. Un éditeur choisit un format, une couverture, une typo, un papier, un encadrement. Finalement, le numérique, c'est comme si dans votre bibliothèque ou dans une librairie, tous les livres avaient exactement la même couleur, le même format, la même taille. Ça devient totalement banalisé et vous perdez toute une dimension très importante. Certains éditeurs ont créé leur succès sur un look, sur un format, sur un papier. Je pense à Actes Sud dans les années 80, par exemple.
Ouais, ça disparaît, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Vandenberg, de nous avoir fait part de votre avis sur le livre numérique. Je rappelle que vous êtes directeur de Payot. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous aussi.
Livre électronique à emporter en vacances, une chronique à relire, non pas sur votre liseuse, mais sur notre page internet rts.ch/on en parle.